Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la saison 2 de Les Chroniques Financières avec Steve Bonneau. Salut Steve.
Salut David, bonjour à tous.
Tout va bien, bel été ?
Oui, un été tranquille. Tranquille en Aveyron.
Ah, titre personnel, parce que d'un point de vue d'économie, des finances françaises et internationales, ouais, si, ça a été calme.
Oui, ouais, c'est un petit peu agité, mais il faut faire avec, hein. Ouais. Ça fait partie du métier.
Et vous en avez vu d'autres.
Et on en a vu d'autres.
Même si on ne va pas remonter à très très loin. Hein. Mais je rappelle, pour ceux qui ont loupé la saison 1, Steve, que vous avez été trader à travers la planète, Dubaï et Monaco notamment. Vous êtes revenu en Aveyron il y a peu. Vous exercez la fonction de conseiller financier, conseiller en investissement.
Exactement.
À ICA Finance, en centre-ville de Rodez.
Voilà.
Alors, avant d'attaquer cette saison 2, avec de l'inédit, des nouveautés.
On va essayer, on va essayer.
Toute bonne série. On va revenir très rapidement sur la saison 1. On s'est intéressé avec vous notamment et en particulier sur la construction d'un portefeuille. Quand on est particulier, qu'on a un petit peu d'argent de côté et que l'on ne veut pas perdre de pouvoir d'achat, sujet qui était déjà sensible au moment de votre arrivée, mais alors, oui, qui est devenu encore plus sensible depuis avec l'inflation à 7, 8, 9% et c'est pas fini.
C'est ça, et c'est un petit peu toute la subtilité de la chose. Hein. Donc voilà, quand on a de l'argent à investir, il faut de toute façon bien se poser la question de savoir pourquoi on investit. Mmh. Et bien souvent, c'est tout un travail préparatoire qui doit être fait et qui n'est pas fait.
Parce que cette question-là, vous soulevez, elle paraît évidente. Parce que oui, je me dis, bah, si j'investis, c'est que je sais pourquoi. Mais vous, votre expérience professionnelle, c'est de voir régulièrement des personnes qui ont de l'argent.
Voilà.
À investir. Mais quand vous leur posez la question pourquoi vous investissez, ils n'ont pas de réponse.
Ils n'ont pas de réponse.
Même pas juste, je veux gagner encore plus.
Si, mais quand ça même reste très basique, en fait. Ouais. C'est je veux gagner plus ou je veux le maximum de rendement, etc., etc. Mais nous, ça ne nous aide pas, en fait, parce que ce sont des choses qui coulent de... Enfin, ça
qui vont de soi, source. Oui.
Voilà, on veut effectivement gagner le maximum, sauf qu'on ne parle jamais des risques, parce que quand on investit, il y a toujours deux côtés, il y a deux faces à la même pièce. Donc, il y a la partie rendement et puis il y a la partie risque. Mmh. Et personne, en fait, ne veut vraiment parler des risques parce que bah, ce n'est pas quelque chose qu'on aime naturellement.
Et oui.
Donc, on aime bien parler de combien on va gagner. On n'aime pas parler de combien on risque de perdre.
Oui, parce que ces risques existent et là, dans tous les domaines.
Exactement. Au pire du pire. Fait partie, en fait, vraiment du contexte de la relation entre le gestionnaire, le gérant et le client. Mmh. Et il faut absolument en parler. D'autant plus que la variable du risque, c'est la seule véritablement sur laquelle on a un certain degré de contrôle.
Ouais.
Parce qu'on peut se dire, voilà, j'ai 100, je suis prêt à risquer 20, 30, 40, 50 ou 60.
Mmh.
Ça, je peux le contrôler. Par contre, une fois que j'ai investi, combien ça va rapporter, j'ai plus aucun contrôle dessus.
Voilà, et ça, en fonction des contextes internationaux qu'on peut connaître comme actuellement, en fonction de retournements ou de changements sur les
Exactement.
Marchés sans grand choc géostratégique, et puis en fonction même, parce qu'on se dit, bah si, mon livret A, il est sûr, bah ouais, mais on sait, finalement, bon là, ça remonte les taux, mais on ne sait jamais, finalement, à la fin de l'année, si les taux vont
Exactement.
Monter.
Exactement, on est toujours dans un contexte d'incertitude.
Ouais.
Donc, en fait, c'est pour toutes ces raisons que tu viens d'évoquer et puis aussi pour celles dont on n'a aucune idée au moment où on va investir.
Ah oui.
Parce que tellement de choses peuvent se produire, tellement de choses sur lesquelles on ne pense pas que ça fait partie du risque.
Tout à fait. Alors, on avait vu avec vous, Steve, tout au long de la première saison, comment construire un portefeuille. Justement, cet argent, pas tout placer tous ses œufs dans le même panier, première règle. Ensuite, répartir un petit peu ses forces en fonction de son profil à prendre des risques, justement. Alors, il y avait des actions, bien sûr. Il y avait de l'immobilier, je me rappelle.
Il y avait des obligations.
Un petit livret A, vous disiez, bah oui, très bien, ça ne peut pas faire de mal, c'est sûr, c'est tranquille. Et puis, du liquide. Ça, c'était ces derniers...
Voilà, c'était ça. Alors, en fait, grosso modo, exactement. Et l'idée, en fait, David, c'était vraiment toujours, donc, effectivement, dans le cadre de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier, aussi de se diversifier par source et nature de risque.
Ouais.
On avait parlé d'un risque de marché, donc de la volatilité. On avait parlé d'un risque de liquidité pour certains types de placements qui sont beaucoup moins liquides, mais qui rapportent aussi. Bon, l'immobilier s'en est un. C'est plus facile à vendre une action en bourse qu'un
immeuble.
Mais
ça rapporte.
Enfin,
en tout cas, c'est
voilà.
C'est
et donc, c'est intéressant d'avoir tous ces différents types en fait, d'actifs dans un portefeuille. Mais pour ça, encore une fois, pour bien calibrer le portefeuille, pour bien calibrer quel pourcentage je mets aux actifs liquides et quel pourcentage je mets aux actifs beaucoup plus, on va dire, moins liquides, il faut que je sache, en fait, les contextes du client.
Voilà.
Voilà. Et c'est pour ça, ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui est important, c'est que le client doit aussi bien réfléchir. Et notre rôle, c'est de l'aider aussi dans sa réflexion, de l'accompagner en disant, mais bon sang, pourquoi est-ce que j'investis? Qu'est-ce que je veux faire? Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, les clients qui veulent simplement faire du rendement, là, on se rapproche de problématiques de casino. C'est-à-dire que voilà, il y en a pour certains, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que eux, ce qui les intéresse, en fait, dans le placement financier, dans l'investissement, c'est l'adrénaline.
C'est le jeu.
Oui, tout à fait, oui, c'est l'adrénaline. Ça, on n'est pas vraiment dans un contexte où on a une valeur ajoutée certaine, parce que ce profil-là de client n'a pas besoin de quelqu'un d'externe pour lui dire, voilà, il faut que tu penses.
Il faut construire, il faut penser, il faut réfléchir. Lui, c'est plus par l'instinct, j'exagère un peu, mais plus à l'émotion. Oui, on n'est pas du tout sur les mêmes ressorts.
C'est exactement ça. Et donc, en fait, voilà, il y a tout ce travail préparatoire à faire, et ça, c'est véritablement un des piliers centraux, en fait, du rôle du conseiller.
Et alors le conseil, justement, on va détailler avec vous, c'est notre thématique principale cette semaine avec les chroniques financières.
Et oui.
Steve.
Et oui,
le conseil, bon, c'est le cœur de votre métier. Alors, on a bien compris que le conseil, vous le donniez déjà après avoir effectué quand même une analyse, alors je ne vais pas dire hyper détaillée, mais enfin si, quand même complète.
Ah si, c'est vraiment
client.
Indispensable.
Ouais, non, mais je ne veux pas faire peur.
Ah non, mais c'est pas très compliqué en soi. Ce qui est difficile, en fait, et là, véritablement, c'est plus difficile pour le client que pour le conseiller, parce que le client, c'est lui qui sait, in fine, ce dont il a besoin, plus que moi. Et donc, ça va être de l'amener à réfléchir sur ses besoins personnels, sur ce qu'il veut. Et là, il faut vraiment l'encourager à se projeter. Et encore une fois, ça peut être pour des problématiques de retraite, ça peut être pour des problématiques de transmission, ça peut être pour des problématiques d'accumulation d'un capital immobilier. Mais il faut vraiment donner un sens à cette activité d'investissement. Et ça, c'est vraiment très, très important. Parce que tout le conseil va être basé dessus.
Et le premier conseil, ça peut être de dire aussi, quand une personne répond à cette fameuse question « Pourquoi vous investissez ?», de dire « Là, ça ne va pas être possible. » Ou « Là, il ne faudrait peut-être pas. » Ou à l'inverse, dire « On peut peut-être faire... C'est un peu modeste, on peut peut-être pousser un peu. Plutôt avant de construire le projet qui va aboutir à...
Mais c'est parce que cette démarche, elle a un côté un peu intrusif aussi. C'est vrai qu'on essaie d'encourager le client à réfléchir, mais c'est aussi notre rôle d'avoir un petit peu ce côté intrusif pour justement l'amener à cette réflexion. Donc il faut poser certaines questions qui ne sont pas forcément toujours simples à poser.
Toujours très agréables.
Pour quelqu'un avec lequel on n'a pas une relation familiale ou professionnelle de longue durée. Les revenus, ça peut être les revenus, c'est les dépenses, la famille, tous ces paramètres en fait, qui vont déterminer le profil d'investisseur, mais qui reste du domaine privé, quelque part.
Bien sûr.
Mais c'est délicat. C'est vraiment, il faut trouver. C'est pour ça que c'est un métier particulier, parce que la relation humaine est très importante. Et alors, je fais juste une petite aparté ici. Je mets en contraste, en fait, cette relation humaine avec tout ce qu'on voit maintenant en termes de robot advisor et toutes ces choses qui sont les applications sur
les applications,
portables, etc. Donc, ça paraît très facile, effectivement. C'est très simple à utiliser un portable ou une app pour investir. Mais tout le côté humain qui fait le cœur, quelque part, du conseil, c'est beaucoup plus difficile à l'appréhender avec une application que quand on est face à face avec un client.
Alors, ce conseil, justement, il se construit comment? Bon, beaucoup au début, j'imagine.
Ah, c'est alors, le conseil, effectivement, alors, c'est là où c'est intéressant. Le conseil, c'est deux choses, en réalité. C'est un, connaître le client, donc accumuler le plus grand nombre d'informations en fait sur le client, ou le plus gros volume d'informations sur le client, pour essayer de vraiment d'affiner son image personnelle qu'on se fait, voilà, des besoins du client et de son profil psychologique et de son profil financier. Donc cette partie-là du conseil, c'est quelque chose qui est continu. Parce que la discussion, ça fait partie en fait de la relation continue avec le client et ça s'étale dans le temps.
D'accord.
Donc ça, c'est très important parce que c'est un métier de détective, quelque part. Cette partie-là, c'est un métier de détective. Il faut accumuler le plus d'informations possibles, le plus de détails possibles sur le client.
D'accord.
Parce que ça va nous permettre, en fait, de constamment, en fait, améliorer notre sensibilité à ce que veut le client, à son profil psychologique, à ce qu'il n'aimera pas, aux mauvaises nouvelles, comment il va les appréhender, etc. etc.
D'accord.
Donc cette partie-là est très importante. Mais deuxième partie, évidemment, il faut connaître les produits. C'est-à-dire que la partie du conseil, ça va dire, ben voilà.
Ah oui.
Voilà. Alors, ce qui est intéressant.
Là où on place, quoi. Les produits, c'est ce qu'on propose. Voilà.
Donc, on parlait tout à l'heure de classes d'actifs, d'actions, d'obligations, de cash, d'immobilier. Très bien. Comment on les investit à ces classes d'actifs à travers des fonds? On peut y aller en direct. On peut acheter des actions en direct ou des obligations en direct. Mais bien souvent, en fait, on a recours à des fonds. C'est quoi un fonds? C'est simplement, on va confier à un professionnel la tâche de sélectionner les actions ou les obligations. Uh-huh. Et puis, on va acheter simplement des parts du fonds.
Ah oui, et le fonds en lui-même, c'est, par exemple, c'est pas qu'une marque ou une grande entreprise, non, c'est un cocktail de plusieurs trucs, un
fonds,
panier.
Ça peut être alors, soit
un panier garni de.
Exactement, ouais. C'est un portefeuille déjà.
D'accord.
Peut avoir juridiquement, soit c'est une sorte de. C'est-à-dire quelqu'un qui achète une part d'un fonds, un fonds commun de placement, il est en indivision avec les autres, ou collectivement posséder un portefeuille, ou bien sous forme d'une société, comme une SICAV, où là, vous êtes actionnaire, en fait, d'une société qui possède le fonds.
Ok, j'ai compris. Pour le, je reviens à l'aspect, donc, une connaissance, on continue. Bon, ça veut dire de se voir régulièrement, ça, quand même.
Alors, c'est vraiment très intéressant. C'est parce que là, on touche vraiment à la notion de conseil.
Ouais.
Et c'est une double dimension. Dans la durée, quand il s'agit d'accumuler les connaissances sur le client.
Oui.
Mais paradoxalement, c'est très ponctuel aussi. Parce que le conseil, c'est simplement matcher, si je puis dire, un produit, qui est un fonds ou une action, avec une problématique client.
D'accord.
C'est-à-dire qu'une fois que je connais le client, j'ai déterminé son profil, le client va me dire, est-ce que je peux acheter ça ou est-ce que je peux acheter ça? Et le conseil va dire, en fonction de votre profil, on vous conseille d'acheter ce fonds plutôt que celui-là, pour les raisons X, Y, Z. Et c'est tout, quelque part. Le conseil s'arrête ici. Après, le client peut revenir avec d'autres questions ou qui pourront donner lieu à un autre conseil, mais c'est très ponctuel.
Ouais.
Alors, pourquoi je dis ça? Parce que je dis ça avec... C'est intéressant de se poser la question, mais alors, comment est rémunéré le conseil?
Oui.
Parce qu'on a cette notion, en fait, de relation avec le client qui est sur le long terme, donc de continuité. Mais en revanche, l'acte du conseil, c'est très ponctuel.
Ouais. Ça peut être oui ou non.
Exactement.
En caricaturant.
Voilà. Alors que... Et là, je mets en contraste avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la gestion sous mandat. Dans le cadre de la gestion sous mandat, c'est quoi? Là, la décision d'investissement, dans ce cadre-là, elle est prise par le gérant.
D'accord.
Alors que dans le conseil, c'est le client qui va prendre la décision. D'accord.
Qui a le pouvoir.
Nous, on est là simplement pour apporter un éclairage particulier sur tel ou tel produit en fonction d'un profil. Dans le cadre de la gestion sous mandat, c'est le client qui s'y connaisse ou qui ne s'y connaisse pas, peu importe, parce que, in fine, c'est le gérant qui va prendre les décisions d'investissement. Et donc, dans ce cadre-là, on a une commission de gestion qui s'étale, en fait, sur la durée et en fonction des encours sous gestion. Donc là, c'est plus simple, quelque part. Parce que, voilà, toutes les années, on dit, ben voilà, j'ai géré pour vous cette année, je ne sais pas, 300 000 euros.
Ouais.
La commission, c'est 2% de l'encours, ça fait tant.
D'accord.
Voilà.
Et ça, que la personne, elle vous ait contacté ou qu'il y ait un nombre d'opérations une tous les trois jours ou que vous l'ayez vu deux fois par an.
Exactement, parce que j'ai un mandat.
Ouais.
J'ai un mandat du client qui me donne autorisation de faire le nécessaire pour gérer son portefeuille en fonction de critères précis qui sont dans un document qui s'appelle
un contrat.
La politique d'investissement. Voilà, vous devez faire ça. 1, 2, 3, 4, ce sont mes objectifs. Voilà ce que je veux faire, voilà ce que je ne veux pas faire, voilà les risques que je vais éviter.
D'accord.
Mais après, c'est moi qui prends la décision. Alors que dans le conseil, non. Et alors, du coup, je ne peux pas lui charger, en fait, une commission de gestion. Parce que je ne décide pas, déjà. Si le client, par rapport au conseil que je lui donne, ne fait rien, je ne suis pas payé.
Ouais, bien sûr.
Donc, et là, c'est intéressant de voir, alors, réglementairement, donc, la juridiction ou le règlement a évolué. Et on a mis en place, il y a deux façons de rémunérer le conseil.
Oui.
Il y a ce qu'on appelle le conseil qui est fait de manière indépendante, où là, on va facturer des honoraires au client en disant, ben voilà, j'ai passé 3 heures à analyser votre profil. Donc, ça fera tant. OK, bon, c'est très bien. Que le client achète ou n'achète pas, in fine.
Bon, c'est juste, voilà.
ou bien de manière non indépendante. Et là, vous dites, il faut que le client, pour que je sois payé, il faut que le client achète quelque chose. Pourquoi ? Parce que, en fait, imaginons que le client décide d'acheter un fonds.
Ouais.
Très bien, le client achète un fonds, on s'est mis d'accord, le fonds va bien par rapport au profil, ça rentre bien dans la stratégie patrimoniale du client. Le client achète le fonds et c'est le fonds qui va me payer.
D'accord.
Et donc, oui. Si le client n'achète pas,
et oui.
Je ne suis pas
payé. Tu
n'es
pas payé, d'accord.
Donc, c'est très délicat, en fait. On voit bien la différence par rapport à un mandat, quelque part, c'est un peu plus simple. Parce que, ben voilà, on a un papier, on a un contrat. Voilà. Il dit qu'on va être payé en fonction des sommes à gérer. Et le conseil, c'est plus délicat. Mmh. Il faut déjà vendre le produit pour être payé. Et il faut faire attention à comment on vend le produit et que le produit, in fine, soit vraiment bien adapté à ce que cherche le client. Et moi, je trouve ça vraiment... c'est vraiment très particulier, en fait. Parce qu'on réalise, en réalité, que le conseil, c'est quelque chose de bien plus ponctuel. C'est-à-dire qu'une fois que le conseil est fait et que ça a été matérialisé par une vente, moi, je ne suis plus payé. À la limite, ce qu'on fait, c'est que, une fois, de temps en temps, on fait le point sur l'adéquation du fonds que le client a acheté avec son profil.
Ouais.
On vérifie que tout soit en ordre.
Et ça, c'est combien de fois sur une année ?
Oh, on le fait au moins, au minimum, une fois par an, il faut le faire.
Ouais.
Simplement, les conditions du client peuvent changer, parce que la vie change, fait que, les choses évoluent. Donc, il faut quand même le faire de manière...
Et en vis-à-vis, en général, c'est mieux ? Ou par téléphone ?
Non, il vaut mieux le faire en face-à-face.
Voilà.
L'échange est beaucoup plus simple, et puis ça permet, c'est ce côté humain qui est important dans ce métier aussi.
Minimum une fois par an.
Ouais, minimum une fois par an.
Très bien, voilà pour la partie conseil. Quelque chose à ajouter peut-être sur ce sujet, Steve ? Ouais, on a encore 2-3 minutes si tu veux un peu préciser sur le conseil, le rôle du conseil, son importance, comment il est rémunéré.
Il est rémunéré. Nous, par exemple, on le fait de manière non indépendante. Donc, ce sont les fonds qui vont nous rémunérer. Et j'ajoute, ce qui est important aussi dans le cadre du conseil qu'on ne retrouve pas dans le cadre de la gestion sous mandat, c'est que le conseil, on a aussi intérêt quelque part à partager avec le client notre connaissance des produits. Pourquoi ?
Oui, que tu... C'est pas dans un mauvais sens, mais que toi, tes envies, tu les... Par empathie, tu as envie de les faire partager à ton client.
Alors, il y a de ça, parce que, on aime faire partager ça, mais c'est aussi qu'en améliorant la connaissance que le client a des produits, on élargit aussi le panel du possible termes d'investissement.
Des possibilités,
Imaginons par exemple un client qui démarre, il va avoir grosso modo trois classes d'actifs, on va dire du cash, actions et obligations. Si demain on commence à expliquer, à s'entraîner ou à se former sur d'autres manières d'investir, que ce soit l'immobilier ou des entreprises non cotées ou d'autres choses, on pourra ajouter dans le cadre du conseil des fonds qui sont spécialisés sur ces manières de faire. Donc, ça enrichit quelque part la relation et ça enrichit, en fait, le potentiel de portefeuille du client.
À partir de... Parce que là, quand on parle de ces sujets-là, on pense à des gens qui ont plein de sous. Il y en a. Bien sûr. Mais il y en a peut-être qui en ont moins, mais qui ont peut-être aussi cette ambition et ce goût pour le placement d'argent, qui peuvent être un peu jeunes. À partir de combien on peut pousser la porte pour aller voir autre chose que son conseiller habituel à la banque et venir te voir ?
Nous, par exemple, de mémoire, le plus petit portefeuille qu'on va ouvrir, qui n'est pas encore ouvert, ça va être 10 000 euros.
D'accord.
Voilà. Donc, pour 10 000 euros, en fait, on s'engage, nous, à faire le même service que pour n'importe qui. Sauf qu'on on adapte quand même un petit peu un certain nombre de choses. Par exemple, il y a tout un service qu'on fait qui est un service d'analyse. Pas au niveau des sociétés, parce que là, ça demande quand même des ressources très importantes. Mais tu te rappelles, en fait, on avait parlé des 6 thèmes d'investissement. Donc, ces thèmes-là, c'est nous qui faisons tout le travail d'analyse pour en faire bénéficier les clients à travers le conseil. Et ce qu'on fait, parce que ce travail d'analyse, juridiquement et techniquement, c'est pas un travail de conseil, puisque le conseil se borne à mettre en relation des produits et un profil client.
D'accord.
Donc, on va le facturer séparément, sous forme d'honoraires. C'est-à-dire que c'est comme un abonnement. Les clients payent un abonnement annuel de temps pour bénéficier, en fait, du travail d'analyse.
D'accord.
Pour les gens qui démarrent à 10 000 euros, en fait, on va leur faire une réduction sur cet abonnement-là.
Ouais, parce qu'il n'y a pas besoin d'analyse très, très poussée pour gérer 10 000 euros.
Il faut être cohérent aussi. C'est-à-dire que passer un moment, si tout l'effort qui est fait dans la construction du portefeuille pour faire... croître le capital du client, il est alloué à payer le travail d'analyste, ça ne sert pas à grand-chose.
Oui, c'est sûr.
Donc, il faut être cohérent. Il faut amener le client dans la relation, la faire croître jusqu'au moment où on pourra se dire, ben voilà, maintenant, vous allez payer le tarif normal parce que votre portefeuille a grossi, etc., etc., etc.
D'accord. Voilà. Ça existe ça, des profils, j'y vais dans, parce qu'on peut débuter là-dedans à n'importe quel âge, même avec 10 000 euros, mais genre quelqu'un de 20 ans, 25 ans, moi j'ai eu des amis qui étaient passionnés par l'immobilier, les investissements, donc je ne sais pas s'ils faisaient ça, mais ça peut arriver. Hein.
Juste
pas par jeu, mais par passion, par intérêt, puis en plus de se dire que de toute façon l'argent, bah, il est mieux là qu'ailleurs à la limite. Donc, bon.
Oui, il y en a, en fait, il y a tout type de profils. Il y en a qui ne sont absolument pas intéressés par ces questions.
Ouais.
Donc j'en ai. Et il y en a qui sont au contraire, qui sont intéressés hein, et qui vont souvent. Alors l'intérêt, il est surtout dans des classes d'actifs un petit peu marginales. On va dire les crypto-monnaies,
toutes ces choses-là,
donc sont un peu nouvelles.
Ouais,
donc là, on s'y intéresse aussi, hein, mais ça reste très très marginal parce que là, c'est très très difficile déjà de donner un vrai conseil dessus. C'est encore plus difficile de trouver un véhicule qui investisse sur ce genre de choses.
Ouais, un produit.
Voilà. Et si tu veux, ça sort beaucoup en fait des contextes, des contrats d'assurance vie ou des supports comme ça en fait, qui nous permettent en fait de baser en fait
construire quelque chose d'un peu solide. Voilà. De construire.
Donc ça se fait. Il y a un intérêt, c'est sûr. Mais ce sont pas des choses qui peuvent se faire, comme je te disais, dans le cadre de produits d'assurance traditionnels.
Très bien, on se retrouve la semaine prochaine, Steve, pour un nouveau numéro de l'électronique financière sur CFM Rodes, évidemment. Tu sais un petit peu le sujet ou pas encore? Tu vas réfléchir en fonction de ce qui se passe.
C'est un peu au fil de l'eau, en fonction des événements.
Sinon, ça pourrait, parce qu'il y a eu l'été, alors on pourrait peut-être, parce que beaucoup de gens étaient en vacances, n'ont pas ouvert un journal ou allumé un média d'information de l'été, revenir sur... Il y a eu des... Ouais, si, ils ont monté les taux, tout ça, tu vas en parler enfin, tu l'as annoncé, hein, mais bon...
Oui, c'était annoncé. Mais il y a ça, toujours un effet de surprise. Ben là, il y a eu le week-end dernier en fait cette réunion à Jackson Hole au Wyoming. Il y avait tous les banquiers centraux.
Banque fédérale américaine, ouais.
Et là, la Fed a dit on va quand
même. C'est
pas
fini.
C'est pas fini. On va relever les taux de manière agressive et tant pis si ça fait mal.
Et ça, ils disent pas tant pis si ça fait mal. Ils disent que ça. Ils me rappellent, j'ai lu le truc. Ça va faire mal, il va y avoir du chômage. Mais on va le faire quand même.
On va le faire quand même parce que si on fait rien, ça risque d'être pire.
Bon, enfin, c'est toi qui vois. Merci beaucoup, Steve. À la semaine prochaine.
Merci, David.